Ça va toi aujourd'hui?
Là je me sens bizarre.
Je sais pas,
je suis calme et tout, je te touche.
Là j'ai encore un truc à dire.
Non, ça va pas trop.
Oh là là, je me sens bizarre.
Non, c'est comme si j'étais en piscine, raconte.
J'ai encore un truc à dire.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Mais qu'est-ce que ça raconte?
Bah ouais, on passe à la radio.
Silence Radio, la radio des schizos, la radio des paranos, la radio des gens pas réglos.
Sur Radio Panique 105.4, c'est Silence Radio, j'entends le micro, Pascal pour l'animation, présentation de l'équipe des chroniqueurs, nous avons Thomas.
Bonjour.
Yannick.
Salut.
Gwendoline.
Bonjour.
Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Aurélie à la technique. Aujourd'hui, nous parlons d'un travail, une fois n'est pas coutume, brillant travail de fin d'année à la paire aidance et intitulé « La relation d'aide avec les pairs, de la présence à soi à la présence à l'autre ». Qui d'autre que l'auteur pour nous en parler?
Eh bien, oui Chantal, c'est en effet Laura Rechtem qui est notre invitée. Bonsoir Laura.
Bonsoir.
Tu es romaniste de formation, paire aidante, actuellement donc assistante de recherche à l'université de Mons. Tu as suivi d'ailleurs à l'université de Mons la formation à la paire aidance, c'était en 2017 avec moi d'ailleurs, c'est là que nous nous sommes rencontrés. Alors avant de parler de ton travail donc, que j'ai trouvé comme un passionnant voyage au pays de la relation, de la rencontre et du partage, cette question, pourquoi, quelles ont été tes motivations à te lancer dans ce travail?
Eh bien, quand je me suis lancée dans la paire aidance, j'ai tout de suite été face à une question. Je me suis dit, bon, tu te lances dans des relations d'aide. Et donc, je trouvais ça très responsabilisant de devoir aider quelqu'un et gérer ses émotions, pouvoir gérer ses émotions à moi et puis aussi peut-être celles éventuellement de l'autre, sachant que j'avais déjà des difficultés sur ce plan-là. Il y a aussi le fait que, pour revenir très rapidement sur mon vécu, je vis avec une maladie orpheline, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à sortir ma parole auprès de nombreux médecins. J'ai eu évidemment de la confrontation pas mal, puisqu'on ne savait pas exactement ce que j'avais au départ. Ou alors il y avait une espèce de théorie comme quoi je simulais, des choses comme ça. Donc je me sentais très incomprise. Et donc voilà, j'avais un peu une parole abîmée. Je cherchais la légitimité aussi. De ce que je pouvais amener dans une à moi-même dans une relation thérapeutique. Et donc voilà, et puis d'autre part, j'avais eu aussi lors d'un séjour en hôpital de jour l'occasion de recevoir par une paire le récit d'une expérience qui avait été assez douloureuse pour elle, et ça m'avait un peu touchée, et ça m'est revenu très vite au moment où j'ai commencé la formation paire aidance. Je me disais, ah attention, il va falloir savoir faire ce travail en fait vers la relation pour essayer d'avoir la confiance en soi et en l'autre aussi.
Parce que tu as fait un stage aussi dans le cadre de cette formation où tu as pu rencontrer des personnes avec lesquelles tu as pu dialoguer, tu as pu entrer en relation, et ça t'a sans doute permis devant une romaniste, donc permis de réfléchir à toutes ces questions en fait.
Ouais, l'expérience de stage m'a permis d'alimenter le TFF, donc travail de fin de formation, parce que effectivement j'ai fait face dans l'expérimentation à la pratique de la paire aidance et donc des questions telles que les repas, est-ce que je prends les repas avec les usagers, est-ce que je les tutoie, est-ce que je peux me permettre un geste, quelle est la particularité de ma posture en tant que paire aidante, puisque mon positionnement c'est celui de la proximité, du partage de vécu, et donc dès lors comment je peux trouver des balises pour moi-même et pour l'autre dans cette relation.
Pour l'auditeur, on pourrait juste préciser un petit peu ce que c'est que la paire aidance. Juste quelques mots. On pourrait
pour
le
moi,
faire
pour
nous
moi,
aussi. Hein,
très mais... simplement, c'est le partage de savoir expérientiel. Alors ici, on l'entrevoit dans un contexte plutôt de santé mentale. Il faut savoir aussi qu'il y a des dynamiques de paire aidance qui s'impulsent sur la précarité,
précarité
aussi.
Oui.
Voilà, moi, je travaille sur un projet notamment de recherche transfrontalier entre les villes de Mons et de Valenciennes qui se déroule dans les quartiers sociaux et qui permettra, en fin de projet, d'impulser une dynamique de paire aidance justement entre les travailleurs sociaux et entre les habitants.
Donc c'est parce que tu as toi-même traversé une certaine expérience de la souffrance psychique que tu peux, en tant que paire aidant, être en écho, être en relation d'une certaine manière avec les personnes qui sont dans le besoin.
C'est quoi, d'avoir, c'est d'être passé par une même problématique ou d'avoir rencontré les mêmes des similitudes dans les, mm-hmm. dans les difficultés de parcours, c'est et ça, puis de pouvoir ça. En avoir aussi le recul, d'en avoir retiré quelque chose et de pouvoir le transmettre.
Et tu disais tantôt que donc, tu arrives en institution pour ton stage et que tu te poses déjà des questions par rapport à la proximité des usagers qui y sont. Moi, je voulais juste savoir une petite question comme ça. Est-ce que là où tu as fait ton stage, est-ce qu'on laissait beaucoup de liberté au père aidant de choisir justement sa distance par rapport aux usagers, ou bien est-ce que c'était l'institution qui réglait un peu ça ?
Là où j'étais, il y avait quand même un soutien favorable pour la posture, pour la particularité de la posture du père aidant. J'étais aux habitations protégées L'Espoir à Namur.
D'accord.
Et donc, il y avait, par exemple, sur la question du tabac. Bon, voilà, il est clair que aller fumer une cigarette avec les usagers bénéficiaires. Je ne sais jamais comment il faut dire, mais je vais parler de bénéficiaires. Aller fumer, ça permet de l'informel. Et je pense que dans l'informel, il y a de la confusion dans les rôles qui permet de se rapprocher un peu plus, de se laisser un peu plus libre. On est moins collé à ce rôle comme faisant partie de l'équipe soignante. Et donc, là, il se joue des choses quand même vachement importantes, je trouve. Et sur la question du tabac, moi, on m'avait dit, écoute, c'est comme tu le veux, tu peux décider. Et je me suis dit, ça relève quand même d'un positionnement éthique, finalement, parce que le reste de l'équipe ne fume pas avec les patients. C'est très clair. Ils ont fait ce choix-là. Et donc, je me disais, est-ce que ça ne va pas me distancier de l'équipe aussi soignante, donc apporter une confusion dans mon rôle de père aidante. Finalement, j'ai décidé simplement de clarifier mon rôle comme partie de l'équipe soignante en ne fumant pas avec eux, mais simplement en les accompagnant et en étant là présent.
Et justement, dans le cadre de ton stage et par rapport aux bénéficiaires ou utilisateurs, est-ce que le fait de ton expérience de vécu et la père aidance permet un lien plus proche par rapport à toi en tant que père aidant en contrarie avec l'équipe professionnelle?
Il y a une disponibilité effective, c'est-à-dire dans le temps qu'on passe avec en présence des usagers. Normalement, dans les ateliers, on les suit. On a plus d'informels aussi. Les temps de repas, ça peut être partagé. Moi, j'avais choisi de faire moitié-moitié. Moitié avec l'équipe soignante, moitié avec les bénéficiaires. Et donc, il y a cette disponibilité effective, sans doute plus que d'autres soignants, puisqu'il y a plus d'informels déjà, et il y a aussi la proximité dans le partage de vécu, puisqu'on est passé par des mêmes expériences, a priori.
Ils vont plus aller se livrer vers toi, plus facilement peut-être que vers le
professionnel. Je ne sais pas, ça dépend, parce qu'un père aidant peut aussi être mal vu quand il arrive. S'il arrive avec une optique d'exemplarité, par exemple, plutôt que d'être dans une dynamique d'impulsion, vers de l'inspiration, quelque chose comme ça qui peut... je pense qu'il faut éviter l'exemplarité qui, là, peut effectivement freiner. Mais en soi, quand on voit un père aidant arriver, on se dit... il a peut-être des choses à me transmettre sur la façon dont lui s'en est sorti. C'est comme quand on voit un ancien fumeur, souvent, et qu'on est fumeur soi-même, on se dit, tiens, comment t'as fait ? C'est quoi tes trucs à toi ? C'est quoi tes tips ?
Et tu as senti ça dans l'institution où tu as travaillé, une certaine curiosité par rapport à ton parcours passé ou...
Pas tellement par rapport à mon parcours, mais plus par rapport à la fonction de père aidant, ce qui n'est pas plus mal, parce que du coup, il y a cet intérêt pour les dynamiques de rétablissement, etc. Mais c'est vrai que dès qu'on arrive en général à l'institution, puisque ce n'est pas encore très, très connu par les bénéficiaires, tiens, un père aidant, donc c'est le rétablissement, ça existe. Et ça les sort un peu de ce truc un peu déprimant aussi, je pense, personnellement. Mais Pascal, t'as peut-être eu, toi, tu travailles dans une institution, tu en fais certainement l'expérience.
Ouais. Pascal, tu veux dire quelque chose ?
Non, du tout. Non, fais attention à l'heure, c'est tout.
Moi, j'ai eu l'expérience de stage, donc elle n'est pas aussi vaste que celle de Pascal, par exemple. Mais oui, moi, je sens que ça impulse quelque chose.
C'est vrai que Pascal aussi, toi, t'es père aidante. J'ai une question peut-être pour vous deux, alors. Est-ce qu'un enjeu, c'est pas constamment, quand on est en relation avec des pères, de déjouer une certaine hiérarchie ? Parce que quelque part, tu es quand même là pour les épauler, quoi, et pour tu es celui qui est censé insuffler le soin, quoi. Les soignants aussi, mais bon,
plutôt que la hiérarchie à déjouer, elle est plutôt au niveau institutionnel qu'au niveau des usagers. Enfin,
est-ce
pour moi,
qu'on
je n'absorbe sens plus comme
pas
ça.
Parfois une certaine hiérarchie du fait simplement de sa fonction. On est là en tant qu'une aide, et on pourrait se positionner d'une certaine manière qui, enfin, simplement, je pense au regard de l'autre, en fait, au regard du père qui se fait aider. Voilà, je sais pas quelle est...
Oui, moi, en tant que... Donc, je travaille à la Clinique Sans Souci, et je craignais ça, effectivement, en commençant, et je me rends compte que ça ne pose mais strictement aucun problème pour le moment. Et je suis assez étonnée, en fait. Ou alors, il y a des personnes qui se taisent ou qui restent un peu en retrait. Et on ne sait pas toujours pourquoi, parce qu'on ne va pas aller les trouver et dire bah, « Tiens, tu ne parles pas au père aidant et tout. » Ce n'est pas ça du tout l'idée. Donc, mais de manière générale, je dirais que c'est bien vu, quoi. Je veux dire, ce sont des relations quand même fort horizontales. On peut dire ça, Laura ?
Mais pour moi, c'est un peu... horizontal, je sais pas trop, parce que pour moi c'est un peu un idéal. Je sais pas s'il y a quand même un sachant, quelqu'un qui est passé et qui a déjà passé des étapes, et une personne qui est encore dans la fragilité face à ses vulnérabilités. Donc je sais pas trop si c'est horizontal, mais en tout cas ça tend vers ça. Donc c'est déjà voilà, quelque chose qui permet une approche beaucoup plus souple, beaucoup moins formelle, et dans des moments de vie, voilà, tout à fait.
J'ai quand même une question. Quand on est dans une relation comme ça de plus grande proximité qu'un soignant traditionnel, comment on fait pour arriver parfois, comme tu dis, c'est pas toujours le cas, arriver à une aide vraiment ? Comment ça se fait parce que finalement, je veux dire, les soignants, ils ont toujours cette impression, ou peut-être c'est justifié, qu'il faut une distance, qu'il faut surtout pas trop de proximité. Enfin bon, voilà. Donc comment dans une relation qui est dite de proximité, on peut faire du soin ?
Ben, moi, je dirais que ce soin-là, il dépend du processus, en fait, du processus de présence, simplement. Et en étant présent, on reflète en fait ce qu'on a nous-mêmes cherché. C'est-à-dire, voilà, le fait d'avoir du doute, de se poser des questions, toutes ces petites choses qui nous ont aidés, eh bien, on peut les transmettre dans la relation d'aide. C'est-à-dire le fait de se poser des questions, de s'interroger sur tiens, est-ce que je pense juste là, et tout ça en fait, ça participe au soin. C'est pas effectivement quelque chose qui va soulager directement, mais c'est des choses qui doivent pouvoir être transmise, je pense, de savoir s'écouter soi-même, de pouvoir écouter l'autre aussi. Donc c'est l'écoute interne, en fait. L'écoute interne, pour moi, c'est vraiment une présence à soi.
C'est le titre de ton travail, c'est ce que tu as voulu dire.
C'est pour être présent, ouais. À ses ressentis, à ses vécus, et en tout cas les écouter. Donc ça me ramène, moi, à la phrase « connais-toi toi-même ». Mais pour moi, « connais-toi toi-même », c'est... Voilà, on le fait pas seul, on n'apprend pas à se connaître soi-même seul. Et voilà, c'est apprendre à s'écouter.
Et bah justement, par rapport à ce rapprochement, par rapport à l'aidant et au père, est-ce que pour le père aidant, il n'y a pas un moment, un risque où ça peut être trop affectif ou trop dur à vivre émotionnellement, ou est-ce qu'il y a vraiment des choses qui peuvent aider dans la formation ou, pour que, justement, comme il y a un vécu en général psychique avant pour le père aidant, est-ce que parfois ça ne peut pas être problématique ? Ce rapprochement.
Il y a des balises du cadre déjà, le cadre en général, d'où la relation dans laquelle se joue et se noue la relation. Mmh. Donc il y a déjà ça qui est une référence auquel on peut.
Enfin, oui, c'est vrai que la formation aide un petit peu, hein, aussi à prendre un peu
de recul,
oui, d'aller un petit peu vers l'introspection et d'y réfléchir tout simplement. Donc, voilà.
Et j'ai une question, ne s'agit-il pas non plus un peu à la manière des psychodramatistes, de ceux qui pratiquent le psychodrame, d'une formation en continu, la paire et danse ?
Ah si, pour moi c'est totalement ça. Je veux dire, le rétablissement et une formation en continu en soi, je pense que j'aurais jamais fini, je pense qu'on a toujours des choses à apprendre. Donc oui, c'est infini, le travail il est infini, et puis quand on a fini un travail, si on pense l'avoir fini, il y en a un autre qui se présente, et puis même le rétablissement il est pas lisse, en fait c'est pas un parcours tout droit, c'est parfois deux pas en arrière qui fait qu'on doit se recentrer sur quels sont les outils auxquels moi je peux faire appel. Tu parlais tout à l'heure de qu'est-ce qui balise aussi. Bah, il y a tout ce qui est intervision, rencontre avec ses pairs, avec des pairs aidants, intervision d'équipe, supervision d'équipe. On peut continuer aussi son suivi personnel. Voilà, il y a pas mal de choses qui aident, mais jamais rester seul en tout cas.
Là, je t'en prie, Pascal, vas-y.
Oui, ok. Bah, parce qu'en fait, il est déjà donc 17h15 et je voulais peut-être demander à Laura. Pour terminer, après on fait une pause musicale. Tu dis que tu parles de pratique humaniste. Pourquoi et tout, en une minute, comment tu pourrais résumer?
D'accord. La pratique humaniste en psychologie, c'est une pratique qui date des années 70, dont la figure centrale, c'est Carl Rogers, qui parle, lui, de counseling. Le counseling, c'est tenir conseil. C'est-à-dire qu'il met, en fait, la pratique de la relation d'aide en avant-plan des théories. Et donc, lui, il dit, ce qui fait soin, c'est la relation interpersonnelle profonde entre deux individualités. Et donc, il va chercher à travailler autour de cette relation et en faire un art, aussi bien qu'une science, en fait, de la psychologie, de ce qu'il ramène. Et oui, donc, lui, il met l'humain à l'avant-plan. Il dit que la relation fait soin. Et voilà, il considère ça vraiment comme un ensemble de savoir-être aussi, avec des savoir-faire.
Et ça venait en réaction aussi à certaines pratiques ou à certains mouvements, donc
psychanalytiques. Ouais, ça venait en réaction à la psychanalyse et au behaviorisme, oui. Okay. Oui, c'est bien ça.
Eh bien, rendez-vous tout à l'heure avec, après, une petite musique, une chanson, que j'aimais beaucoup... adolescente d'ailleurs, c'est Bob Dylan dans Tambourine Man.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire is returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I'm branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel the grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Hear laughing, spinning, swinging madly across the sun. It's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. That's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Then take me disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you.
Nous y voilà, nous sommes en deuxième partie du débat, toujours sur le 105.4, Silence Radio, et nous avons comme invité Laura Rectem, qui nous parle donc de la paire et danse.
Et ne sois pas timide Chantal,
non.
Tu nous as préparé un petit poème sur la paire et danse.
Tout à fait, donc voilà, la paire et danse est une invitation à la danse avec le fou qui sommeille en toi. La paire Dieu qui pose son regard pour que tu changes le tien sur ton parcours, sur le hasard d'une vie qui s'égare, de gare en salle d'attente. Les mots s'envolent quand l'écho est permis. La salle est comble dans ce concert que ton cœur, C-H-O-U-R, a orchestré quand l'auditoire est à l'écoute. Université de ton temps, il est l'heure de poser les bonnes questions, étudier la matière, assouplir par les émotions les plus essentielles.
Merci Chantal, merci beaucoup. Laura, quelles sont les conditions optimales d'une relation de qualité ?
Avec le père aidant ?
Oui, entre père aidant, de père à père.
De père à père.
Ouais.
Je dirais, on en a parlé tout à l'heure, il y a la capacité d'introspection, donc ça qui est en soi lié au rétablissement, hein, je pense, et au continuement du rétablissement. Au parcours de soins, comprendre ses propres mécanismes, ses points forts, ses vulnérabilités, se connaître déjà soi, donc avoir une écoute interne. Après, il y a des aptitudes comme l'aptitude à se positionner, à se poser des questions, qu'elles soient d'ordre éthique ou plus personnel, s'ajuster dans la relation, c'est-à-dire différencier ce qui relève des attentes, des besoins, est-ce qu'ils sont fondamentaux pour le projet de soins de l'autre ou pas, et quelles sont mes attentes à moi aussi, ce qui se joue derrière dans la relation. Pouvoir aussi, dans cette capacité d'ajustement, accueillir ce qui est mouvant dans le lien en général, c'est-à-dire qu'il y a des périodes d'accordement. Il y a des périodes de désaccordement dans une relation, et je pense qu'il faut savoir accueillir ça aussi. Il y a peut-être encore des aptitudes relationnelles, évidemment, c'est-à-dire aller vers, mais pas seulement aller vers l'autre, donc pouvoir avoir des techniques de communication, d'écoute, etc. Mais c'est aller vers aussi ses propres ressources à soi, c'est-à-dire des intervisions, des pairs qui peuvent aussi élargir notre vision à nous. Pouvoir aussi aller vers sa base et par rapport à l'autre, aller vers aussi en constituant une inspiration pour l'autre.
Et est-ce que tu as des exemples de rencontres dans ton stage de vécu que tu as eu avec des utilisateurs ou soignés ou autres
Le stage était assez court pour pouvoir vraiment avoir ce genre de relation-là. Par contre, j'ai pu par contre avoir des relations avec des soignants qui ont aussi pu peut-être leur montrer que la pair-aidance, ce n'était pas simplement une question de partage de vécu et de symptômes, c'était aussi la restitution et la transmission de tout ce parcours de rétablissement. Ça, j'ai eu comme expérience, mais pas réellement en 3 semaines avec des bénéficiaires.
Il y a 3 phases. Tu dis dans ton travail, donc de fin de formation à la formation à la pérédance, donc ton travail, donc tu dis qu'il y a 3 phases à la relation d'aide, qui est envisagée ici comme un processus. C'est quoi ces 3 phases?
Eh bien, il y a ce que moi j'appelle dans mon travail l'accroche, un peu l'approche aussi en fait finalement, c'est l'approche de l'autre. Donc, dans ce que je définis comme approche, il y a ce qui est de l'ordre du climat. Bon, je vais d'abord dire les 3 phases. Donc, il y a l'accroche, il y a le lien, donc maintenir la permanence du lien, comment gérer le lien. Et puis ensuite, il y a la séparation, puisqu'en fait, si on est dans une relation d'aide, c'est bien qu'on a un projet de soins et donc d'autonomisation pour l'autre aussi, et qu'il ne faut pas peut-être... constituer un lien de dépendance, une identification trop forte qui enfermerait l'un ou l'autre dans la relation. Donc il faut savoir aussi, je trouve que c'est autant une question de permettre à l'autre de vivre avec la maladie, avec les symptômes, avec peut-être des résidus, que de vivre sans le thérapeute en fait, que de vivre sans ou le thérapeute ou le père aidant ou la personne qui accompagne en tout cas l'intervenant, c'est aussi fondamental.
Tu dis un projet de soins, et moi ça me fait un peu tiquer, parce que j'avais l'impression que le père aidant avait plus simplement une méthode, quelque chose d'assez structure, comme ça, des outils, et que le projet de soins, j'ai quand même l'impression, moi c'est un truc personnel que je te dis là, mais que le projet de soins, pour moi c'est important qu'il vienne de la personne qui se fait aider, en fait, non ?
Pour moi aussi.
C'est
ce que j'explique aussi, l'importance de définir le cadre, d'exprimer ses attentes dès le début, dès l'accroche en fait, parce que ça permet de co-construire en fait avec le soignant. Et quant au père aidant, mais s'il est s'il est associé à l'équipe soignante, évidemment, il partage le projet de soins qui est défini pour, l'usager.
Oui, bien sûr. Dans l'institution aussi, quoi.
C'est ça. Moi, ici, je parle vraiment d'un travail professionnel, que ce soit dans une institution, une association. Je ne parle pas de la prédance qui se passe, outre tout ça, et elle existe.
Ouais, c'est vrai qu'on peut aussi concevoir la pérédance comme quelque chose de pas forcément institutionnalisé, quoi. Et par rapport, c'est une question qui est un peu, on revient un petit peu en arrière, on revient à ta formation, mais je voulais savoir, peut-être Pascal aussi, si tu as envie de répondre, si vous n'avez pas senti, vu que cette formation-là était donnée par des professionnels de la santé mentale et que ça parlait justement du soin donné par les pérédants, si vous n'avez pas senti un discours préformé. Certains moments, un discours où vous pouviez entendre ça, ce n'est pas du soin qui est possible par les pères aidants, c'est comme ça que ça doit se passer, ou est-ce suffisamment ouvert pour...
La formation, elle se passe dans la co-construction, en fait, déjà.
D'accord.
Donc, en fait, ce n'est pas un savoir qui vient descendant, qu'on vient nous balarguer, on va dire.
Et comment ça se passe dans la co-construction, alors ? Enfin,
déjà, je voudrais dire une chose, c'est qu'effectivement, les premières années, et nous, on était la 2e année, je pense, il y avait effectivement plus d'intervenants extérieurs. Et désormais, il y a des pères aidants qui viennent donner des modules sur base de leur TFF ou sur base de leur expérience dans la réalité hors formation. Mais... moi, j'ai pas l'impression qu'on nous a balargué des savoirs. J'ai plutôt l'impression qu'on nous a appris à nous remettre en question et à venir discuter, dialoguer,
d'accord,
échanger, élargir notre vision des choses, la tempérer, la nuancer.
Voilà, Pascal,
je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment se dire que c'est une co-construction et comme tu dis, donc on n'est pas là pour recevoir du savoir, absolument pas. Mais c'est pour partager et c'est co-construire tous ensemble. Donc une nouvelle fonction, quelque chose de vraiment neuf, quoi.
Mais tu parlais qu'il y avait énormément d'intervenants. Là, j'entends tout à fait qu'il y a un élargissement des points de vue. Alors, ça, j'entends tout à fait. Mais la co-construction, je n'arrive pas à me l'imaginer dans la formation. Comment ça se passait ? C'était des ateliers en groupe ou bien c'était...
Énormément de comment dire, d'échanges entre nous.
Et de débats.
De débat, oui, d'accord.
Oui, beaucoup.
En fait, je pense que rien que le simple fait de venir se confronter à parfois la vision qui est opposée à la nôtre, ça nous apprend à nous tempérer, ça nous apprend à trouver justement une juste distance par rapport à l'autre.
Est-ce qu'on peut apparenter cela à un travail aussi de déconstruction personnelle par rapport à ce qu'on pense qui peut faire soin ou lien avec le père aidé.
De distanciation par rapport à soi, à ses visions, à ses représentations, de... oui, enfin, moi je pense de déconstruction, de décentrage en fait.
Décentrage.
Décentrage par rapport à son propre vécu, ça c'est très important.
Je me fais un peu l'avocat du diable, mais comment dire, est-ce que ça s'est passé dans votre formation ou dans votre travail ou quoi? Je vais essayer de trouver les bons mots pour poser ma question. Vu que c'est quelque chose qui est quand même une problématique qui touche à l'intime, quoi. Donc, c'est-à-dire, j'ai vécu quelque chose de personnel, d'intime, et je vais m'en servir pour aider. Est-ce que dans les débats que vous avez eus, est-ce qu'il n'y avait pas parfois des positions de dire, mais non, mais ça, moi, je l'ai vécu, et donc, de toute façon, c'est comme ça qu'on doit faire, c'est comme ça qu'il faut penser, vu que, enfin, quelque chose qui peut même être très charnel, parce qu'on a vécu ça et qu'on a souffert là-dedans, et qu'on s'en est sorti de telle manière, et donc, quelque chose d'un peu à vif, comme ça. Et c'est pas forcément négatif, parce qu'on peut, ça n'empêche pas l'échange, hein, mais ça pourrait devenir un certain dogmatisme, mais je me fais vraiment l'avocat du diable, hein, en demandant ça, quoi.
Tu peux juste préciser ça.
Du style, mon émotion, c'est la vérité. Arriver à un certain niveau où voilà.
Ouais, bah c'est justement tout le travail de la formation. C'est d'arriver à se distancier de soi-même, à s'écouter aussi, à écouter l'autre, évidemment. Et à ne pas retomber dans ces failles-là, je pense que c'est tout le travail de la formation. Hein.
Et
il y a ces situations-là de débats intenses, nous on les a connus aussi.
Mais c'était agréable à vivre comme débat, c'était pas des choses plombantes, c'était vivifiant.
Il y a aussi de l'informel à côté qui nous permet, moi j'ai pas eu l'impression qu'il y avait trop de dissensions réellement.
Il y a eu des difficultés, je pense, pour l'une ou l'autre personne qui se retrouvait plus dans cette formation. Mais bon, ça c'est comme un peu partout, je pense que c'est pas... C'est pas exceptionnel, spécialement.
Vous auriez l'envie que dans l'avenir, ce soit des pères aidants qui donnent cette formation et plus des professionnels?
Mais c'est pas des professionnels qui donnent la formation.
Alors d'accord, c'est moi qui ai des mauvaises informations.
Je pense pas qu'on puisse dire ça.
Et les professionnels de la santé mentale, vous voulez dire?
Oui.
Moi, je pense que c'est bien qu'il faut qu'il y ait les deux, en fait, parce que c'est la père aidant, c'est la complémentarisation des savoirs, et c'est pas seulement le père aidant qui va venir imposer son savoir non plus, ou critiquer absolument, d'un point de vue pas toujours constructif, l'institution, et on sait qu'il y a des choses à dire. Non, c'est vraiment de pouvoir écouter l'autre aussi, apprendre de son savoir, et venir aussi apporter le nôtre.
Je pense qu'il... ma conduite. On peut peut-être passer à la chronique littéraire, si Gwendoline est d'accord.
Oui, chers éditeurs, merci Pascal. Nous partons à la découverte d'une lecture des contes libertins de La Fontaine. Le titre du livre s'intitule « Comment l'esprit vient aux filles et autres contes libertins », texte établi et annoté par Jean-Pierre Collinet. On le retrouve aux éditions Folio. Folio, c'est plus de 7000 titres et 2000 auteurs publiés dans près de 20 collections de littérature et de sciences humaines. Avec Folio, 2 euros, et je cite, « Laissez-vous tenter par des courts romans, des nouvelles et des textes brefs pour découvrir à petit prix des chefs-d'œuvre de littérature mondiale. » À travers des genres très divers, mais aussi des recueils thématiques, la rencontre amoureuse, l'amitié, le bonheur, la lecture, venez à la rencontre des grands écrivains tels que Mishima, Albert Camus, Jane Austen, Jack Kerouac, Louis Aragon et d'autres auteurs plutôt contemporains comme Orhan Pamuk, Ben Akista, Jean-Marie Laclavetine, Tesson ou encore Jean de La Fontaine. Une série d'inédits complète le catalogue de la collection des petits éloges signés par des auteurs contemporains. Les contes libertins sont moins connus que les fables de La Fontaine qu'on étudie dans les écoles primaires. D'après Internet, ces contes sont qualifiés d'hardis, savoureux. Ils vanteraient le libertinage et l'érotisme à sa façon. Jean de La Fontaine, né le 8 juillet 1621 et mort à Paris, est un poète français de grande renommée, principalement pour ses fables et dans une moindre mesure pour ses contes. On lui doit également des poèmes divers, des pièces de théâtre et des livres d'opéra qui confirment son ambition de moraliste. La Fontaine est poète et écrivain, on y trouve des alexandrins, des cassylabes et autres mesures, sa poésie est rimée. Il veut conter une histoire où est-ce le thème du plaisir, de l'érotisme et du libertinage qui y sont traités avec ironie ou dérision, fantaisie, galanterie et parfois interprétés en farce. D'après Swarmack, Jean de La Fontaine écrivit également des dizaines d'histoires où les femmes sont infidèles, les époux cocus, les vierges avides de corps, les voisines trop curieuses, les nonnes voilées et délurées, les religieux généreux. D'après Wikipédia, le fabuliste a éclipsé le conteur dont les textes sont ici en vers. La crispation religieuse de la fin du règne de Louis XIV et plus tard la pudibonderie du XIXe ont mis dans l'ombre ces contes licencieux. Le défi poétique consiste à jouer de l'implicite pour nommer ou ne pas nommer la sexualité, à dire sans dire dans un jeu de dérobade et de provocation reposant peut-être sur la complicité du lecteur. Le conte licencieux peut être un récit court. Le conte licencieux est universel, il existe dans toutes les cultures et à toutes les époques. Le conte retranscrit par l'écriture, puis l'imprimerie est peut-être soumis à l'évolution et l'évaluation de la morale publique et des lois civiles ou religieuses qui la régissent. Le libertinage est un courant de pensée qui naît au XVIe siècle. C'est un mouvement originellement aristocratique qui naît d'abord à la cour du roi en France. Le jeune poète Théophile de Viau en est le chef de file au début du XVIIe. Le libertin, selon son sens premier, est donc considéré comme celui qui se libère des contraintes religieuses et philosophiques. On parle alors de libre penseur. Leur but est de provoquer. Les libertins n'hésitent pas à faire scandale, toujours d'après Internet. Ces contes ont été censurés en leur temps par le procureur du roi en 1675 parce que jugés immoraux au moment de leur parution. On raconte que jugés pleins de saleté et d'ordures, ces contes libertins, ces sonnettes, ces sornettes et ces bagatelles lui valent les critiques des dévots et même de la fermeture des portes de l'Académie française. D'après le site de l'Académie française, je cite en extrait, La Fontaine fréquenta le salon de Ninon de l'Enclos, fut un ancien et l'ami de Boileau, Racine et Molière. Sa continuelle distraction et sa bonhomie sont célèbres. L'illustre fabuliste a composé 239 fables qui le placent au premier rang de notre littérature nationale, mais qui furent peu goûtées dans son temps. Il fut auteur dramatique, élu en remplacement de Colbert en 1683 contre Boileau que préférait le roi. Son admission resta suspendue jusqu'à la vacance suivante, Boileau ayant été nommé cette fois, Louis XIV donna son approbation pour les deux élus en 1684. Contes libertins de Jean de La Fontaine ont été redessinés par Milo Manara, également grand auteur de bande dessinée. Les contes libertins étaient illustrés en l'époque par Fragonard, Bouchet et Eisen. Les contes libertins méconnus du grand public retrouvent aujourd'hui sous le trait de Milo Manara, auteur du Déclic et du Parfum de l'Invisible et maître de la sensualité, leur place dans la littérature populaire érotique.
Merci Gwendoline. Merci.
Et pour l'anecdote, je suis allée voir une fois, le Père Lachaise et La Fontaine sa tombe se trouve à côté de celle de Molière.
Ah ben voilà, voilà.
Comme par hasard.
On vous propose maintenant une petite musique et c'est les Beatles dans Help.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around.
Help me get my feet.
Ben voilà, on est de retour en studio sur Radio Panique 105.4. C'est l'émission Silence Radio et on parle relations de pair à pair, relations la pair aidance, la présence à soi, la présence à l'autre. Ça va ensemble, ça va pas ensemble. Et c'est en tout cas tous ensemble. Et avec Laura Rechtem, qui est donc l'auteur de ce travail. On a parlé de la relation d'aide avec l'accroche. Après, c'est l'instauration du lien. Et puis, alors, après, il faut se séparer. Et ça, je pense que c'est pas tout simple, tout simple, tout simple. Et pour en parler, tu as rencontré des personnes qui ont eu une relation révolue avec un soignant et voilà. Et qu'est-ce que tu as fait de tout ce dont elles ont parlé, de tout ce qu'elles ont confié au niveau qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau de la relation du père aidant vis-à-vis de son père?
Donc je me suis effectivement attachée à des relations qui ont eu lieu avec des thérapeutes ou alors donc c'était des récits c'était un double croisement de savoir, en fait. C'était des récits de pères qui ont expérimenté la relation en tant que bénéficiaire. Et puis, il y avait le récit de Hélène, qui est une professionnelle, qui a travaillé d'abord dans un contexte où la relation d'aide est assez distanciée, donc de la défense sociale, et ensuite qui est passée dans un contexte de proximité et de Basseuil, avec une accessibilité beaucoup plus élargie dans le cadre d'un bar qui est co-géré avec des usagers, entre une institution et des usagers. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai structuré un peu leur, voilà ce qu'ils m'ont raconté, leur récit de vécu, d'expérience de ces relations. J'ai choisi ces trois relations parce que donc il y en avait une qui s'était assez mal passée. C'est la personne dont j'ai parlé tout à l'heure qui m'avait raconté en hôpital de jour, voilà qu'elle était là pour cette relation, la séparation s'est passée de façon très néfaste pour elle. Et puis il y avait une relation positive qui est celle d'Aline. Qui l'a un peu porté, mais qui s'est fini aussi brutalement parce que peut-être l'impossibilité justement de finir ça bien, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas exactement. Mais donc j'ai essayé de structurer leurs propos pour définir les conditions effectivement optimales d'une relation d'aide, que ce soit dans la phase d'accroche, dans la permanence du lien, donc qu'est-ce qui permet de réguler un peu ce lien et le maintenir. Et puis ensuite, la séparation. C'est quelque chose qui est rarement abordé dans la littérature, je pense, en tout cas beaucoup moins que le reste, et qui pourtant a toute son importance, effectivement, parce que ça peut venir remettre en question tout, ou alors faire sens sur tout ce qui s'est passé.
On peut peut-être aborder j'aime pas dire le cas, mais l'exemple d'Emma que tu utilises, que tu parles dans ton travail, parce que je trouvais que c'était un exemple vraiment emblématique du fait que parfois ça se passe mal et faut pas le nier, tout n'est pas rose dans le domaine de la santé mentale, puis on fait tous des erreurs, les soignants aussi, voilà. Et ma question, c'était, ton mémoire est vraiment traversée par la question de la proximité et de l'écoute interne. Et là, moi, de ce que j'ai compris, la thérapeute, à un moment, ne gère plus la proximité, rompt le lien avec sa patiente de manière assez brusque, ce que Emma ne vit pas bien. Selon toi, qu'est-ce qui serait à éviter, quoi, dans cette proximité, pour empêcher un débordement ou un trop-plein ou...
Pour moi, ce qui s'est passé avec Eva, c'est une espèce de disponibilité qui a été assez mal gérée par l'intervenant et qui finalement est devenue confus. Et donc, qui a une espèce de fusion qui a amené à de la confusion, en fait. Et donc, comme il n'y avait plus de cohérence dans cette disponibilité, il y a eu aussi des objets qui ont été passés qu'elle a surinvesti. Elle avait déjà prévenu, dès l'accroche, dès le moment de l'accroche, qu'elle avait rencontré plusieurs fois des problèmes avec les soignants dans l'attachement. Et donc ça n'a pas été, je pense, intégré par la professionnelle, puisqu'elle est retombée dans ces failles-là, qui sont peut-être ses propres failles à elle aussi. Et c'est là qu'est important aussi de pouvoir tout ce travail introspectif qui vient un peu analyser ce qui se passe entre les besoins, les attentes et les possibilités de réponse qu'on a par rapport à la personne qu'on aide. Et donc les jeux de transfert, de contre-transfert. Mmh. Et je pense que ces jeux-là, je voulais rajouter, ces jeux-là, en pair aidance, ils sont vraiment... primordiaux, puisqu'on est effectivement dans un truc d'identification un peu plus fort qu'avec les soignants, puisqu'on a un partage de vécu. Et donc, il faut prendre garde à soi-même ne pas retomber dans ses propres failles ou à ne pas laisser celle de l'autre nous faire déraper ou glisser dans quelque chose qu'on ne maîtriserait plus. Mais pour moi, c'est une question de disponibilité devenue confuse, en fait, avec Emma.
Et peut-être pour augmenter le propos, moi, je vais peut-être un peu plus parler de mon expérience à moi, où je crois que j'ai dû voir 4, 5, 6 psychiatres avant de trouver la bonne, où il y a une distance, mais il y a beaucoup d'années qui sont là, où je la vois depuis longtemps. Et quand j'entends parler, par exemple, de séparation, bah, c'est quelque chose qui, moi, me stresse et où je ne sais pas du tout comment c'est préparé, comment c'est vécu. Et je crois que c'est pareil pour les pères aidants, mais pour le soigner, c'est aussi quelque chose où on peut, même s'il y a de la distance, mais beaucoup compter sur le soignant. Et comment justement gérer ce moment de séparation qui aura lieu de toute manière à un moment.
Encore faut-il que la séparation soit naturelle quelque part, c'est-à-dire qu'elle puisse être dialoguée en amont. Et je pense qu'effectivement c'est très important, parce que de toute façon pour moi, que la séparation se passe bien ou pas, c'est un processus de deuil. C'est-à-dire que tout d'un coup, le pilier qui a été là, que ce soit pendant une semaine, pendant une hospitalisation, ou sur une relation plus longue qui peut durer des années, tout à coup le pilier n'est plus là. Et voilà, on se retrouve un peu face au vide et il faut faire face.
Mais là où on en revient au cadre, à l'heure où tu dis que dès le départ c'est bien de dire par exemple moi ma mission c'est d'être là pendant 3 mois ou non, c'est pas ça tu penses? Non,
je pense pas que ce soit ça, mais c'est en tout cas de pouvoir dialoguer toujours et de pouvoir expliquer, parce que quand c'est pas fait effectivement on a des doutes, il y a des choses qui ressurgissent, il y a des choses qui sont ravivées, et donc effectivement, moi, je pense que cette séparation, elle fait sens. Ça permet vraiment de se refocaliser sur tout le travail qui a été fait, sur ce qu'on en retire, quels sont les outils qu'on garde. Mais en même temps, si le revoir n'est pas fait correctement, et je pense que d'où l'importance de dire au revoir, peut vraiment totalement tout remettre en question et tout refaire chuter.
Ça, c'est vrai que ça doit être assez dur à vivre de...
Un deuil.
Oui, de se faire aider par quelqu'un, et puis tout d'un coup cette personne n'est plus là, et puis on envoie une autre qui nous aide, et puis tout d'un coup cette personne n'est plus là, c'est assez déstabilisant. Personnellement, je serais déstabilisé, quoi.
Moi, je crois aussi où il y a parfois une histoire en tant qu'usager où on a parfois l'impression, on recommence jamais à zéro, mais que quand on voit un nouveau thérapeute, ou un nouveau père aidant, ou un nouveau psychologue, ou infirmier psy, ou un SPAD, et qu'on voit des nouvelles personnes, il y a un moment où on a vraiment l'impression de tout recommencer à zéro à chaque fois, qu'il faut tout réexpliquer. Tandis que si on voit quelqu'un sur le long terme, il y a des choses qu'on n'explique plus, parce que la personne vous connaît. Mais du coup, ça fait vrai, même s'il y a de la distance, il n'y a pas d'amitié ou des choses comme ça, mais il y a une certaine proximité qui fait que c'est cette séparation-là qui peut justement être dure à vivre, mais qui doit être vécue à un moment.
Ma part, je l'ai vécu une fois en changeant de psychothérapeute, et puis ça a mis le temps que ça a mis, mais ayant pris contact avec une autre thérapeute qui était connue du réseau de mon médecin, à un moment donné, ce qui était intéressant, c'était de se dire que le nouveau thérapeute n'était pas là pour utiliser la même approche, et donc du fait que ce qui a été sous-pesé, compilé, était déjà fait, venir avec des choses encore plus concrètes et liées au processus personnel de travail.
Mais c'est que là, en fait, on est déjà dans un débat où on continue avec un autre thérapeute.
Ah oui, oui.
C'est encore différent si on s'arrête et on dit, bon voilà, j'ai assez dans ma tête pour pouvoir vivre
c'est
avec
à un moment, y a
et vivre
plus...
sans. Mais...
Si à un moment, il n'y a plus de thérapeute, plus d'aide, parce qu'on va bien.
C'est ça.
C'est un peu comme sauter dans le vide.
En fait, c'est
le
but du travail, c'est d'arriver à trouver ses outils à soi, ses propres ressources, et finalement de se dire à un moment donné, j'en ai plus besoin.
Autonomie.
C'est ça, c'est de garder quand même ça à l'esprit.
Un peu à la manière d'une valise dans laquelle on aura compilé des tas d'outils et puis repartir pour un nouveau voyage.
Voilà, belle conclusion. Parce que moi, je voyais plus ça dans ma tête comme un saut dans le vide, au fait.
Mais c'est vrai que si on a encore besoin de dire, si le processus narratif peut encore être travaillé, c'est-à-dire la façon de se dire autrement, et puis aussi d'avoir un autre regard, comme vous le disiez, on peut effectivement se relancer dans un autre travail. Mais je pense qu'à la fin d'un travail, il faut se poser la question aussi, est-ce que je vais toujours continuer à voir quelqu'un? Parce que le travail, il est infini, et je pense que tout le monde devrait le faire, en fait, même dans la société. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue pas? Mais en tout cas, je pense qu'il est important de savoir dire au revoir de part et d'autre de la relation.
C'est vrai.
Et donc, peut-être pour conclure, vis-à-vis de la séparation, dans la formation, qu'est-ce qui t'a appris ou quels sont les outils qu'on t'a donnés justement pour créer ce au revoir? ça demande peut-être un long temps de réponse.
J'ai pas de réponse à ça.
Mais on le vit, hein. Je veux dire, on l'a tous vécu. À un moment donné, on s'est dit, tiens, même si c'est toujours en cours, si la relation est toujours en cours, à un moment donné, enfin, moi, je me dis souvent, je veux dire, tiens, si cette personne avec qui j'ai une relation de confiance venait à disparaître, par exemple. J'ai connu comme ça une dame dont le psychanalyste est mort pendant la cure. Ben voilà, c'est des choses auxquelles moi je pense. Ça m'arrive de penser à ça. Et c'est vrai que c'est terriblement difficile. Et moi j'ai quand même une question. Je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est si difficile ? C'est quand même une personne étrangère. Et pourquoi on investit tellement de, j'ai du mal à comprendre.
Peut-être parce qu'il y a justement ce truc de, on se sent compris, on se sent, comme tu le disais, connecté.
Ouais. Il y a énormément d'enjeux inconscients aussi. Le transfert, le contre-transfert fait qu'on a une relation avec son thérapeute qui est quand même fantasmatique, plein d'imaginaires.
Oui, mais quoi, on peut en prendre conscience de ça.
Ça prend du temps, il faudrait refaire une thérapie.
Parce que c'est du vécu, en fait. Mais c'est simplement du vécu. C'est simplement du vécu avec la personne. C'est simplement aussi du partage.
C'est bien. Moi, ça fonctionne. Hein. C'est pas ça du tout. Hein, mais
on prendra la question. Qu'est-ce qui permet de dire au revoir ? Moi, je dirais que c'est aussi tous les aspects symboliques. Peut-être faire des choses symboliques aussi qui permettent de faire la rupture. Voilà, mettre une croix au rouge sur la personne dans son mental ou pas. Je sais pas, ça peut passer par. Je pense que c'est très personnel. Voilà, chaque personne va trouver ses outils selon ses ressources. Selon sa personnalité, selon ce qu'il a vécu.
Autour d'un repas, quelque chose comme ça, quelque chose de convivial où on peut se parler un peu plus informellement, par exemple, pourrait être sympa, je pense, dans certains cadres, hein. Pas dans tous, quoi. Mais oui, je pense qu'il y a pas mal de possibilités.
Je ne sais pas quand j'entends ça ou quand je vois comment on en parle, mais c'est un peu aussi comme dans la vie en général, où on passe du temps avec des gens et il y a une relation qui se passe qui est affective ou pas affective, et à un moment on ne voit plus les gens, et c'est comme un deuil, au fait. Mm-hmm. Mais ouais.
J'avais vraiment envie de lire une phrase de ton travail, en fait, mais ça parle du cadre. Mais bon, on n'est pas trop loin du cadre non plus, j'ai l'impression. C'est une phrase de Hélène, je crois. Mmh. Elle dit « Moi, je pense que le cadre est indispensable, extrêmement précieux, mais c'est comme un ring de boxe. Si tu as des barrières en bois, comme dans une prairie, dès que tu vas contre le cadre, c'est vachement traumatisant, destructeur. Imagine le boxeur qui arrive sur une barrière en bois. » Ce qui fait que ça marche, c'est que les cordes sont élastiques et qu'en plus, elles ont une certaine tension qui fait que tu es quand même ramené à l'intérieur. Ça doit être contenant et souple. La rigidité est très difficile dans tout ça. C'est une phrase qui m'a beaucoup parlé et je trouvais que ça valait la peine de la relayer, quoi. Je trouve ça une très belle vision du cadre, quoi, le ring de boxe avec ses...
Bah c'est structurant, c'est effectivement contenant, structurant, sécurisant, quelque part. Donc il y a quand même un intérêt du cadre, ouais. Après, il y a aussi un intérêt de leur cadre et de ce qui est informel, comme je le disais tout à l'heure, parce que ça crée plus de proximité, plus de confusion dans les rôles.
D'où les cordes qui sont élastiques, quoi. D'où le cadre qui n'est pas figé.
C'est ça. Alors, effectivement, soit on peut amener à être une rigidité du cadre qui va, effectivement, pour le père aidant, en plus, poser vraiment un problème, puisqu'il a une posture particulière. Ou alors trop de porosité dans le cadre qui fait qu'on ne sait plus non plus où se situer et donc c'est compliqué.
C'est ça le concept de neutralité bienveillante que tu empruntes à Freud pour parler, ça mêle un peu ça, non, la proximité, mais en même temps un cadre assez strict. La neutralité, non,
un cadre clair et cohérent.
D'accord.
Je dirais, mais pas strict, pas forcément. Bah oui, c'est pouvoir être bienveillant, c'est-à-dire bienveillant, si on découpe le mot, c'est vouloir le bien. C'est aussi bien de veiller de façon correcte.
Neutralité, bienveillance, c'est ça, hein, le concept.
Ouais, c'est ça, c'est de pouvoir objectiver en fait les choses qui se passent dans la relation, pour soi et pour l'autre, de pouvoir arriver à les mettre à distance de sorte que on réponde de façon adéquate et le plus judicieuse possible.
On évite de projeter toujours sur l'autre, c'est...
Ouais.
On projette, mais ce qui est important, c'est de pouvoir faire le travail, de se dire, tiens, qu'est-ce que je projette ? Qu'est-ce que je peux décaler par rapport à ça ? Est-ce que je projette de façon adéquate, juste, judicieuse, pertinente, cohérente aussi par rapport aux autres pairs ? Parce qu'il y a tout ce qui se joue aussi par rapport à ce qui se passe autour de la relation.
Bon. Ce sera peut-être l'heure de conclure d'ici. Oui, oui, Chantal, j'ai pas oublié. Il y a encore une rubrique tout à l'heure. On pourrait peut-être conclure en je dirais, 2 minutes. Donc voilà, présence à soi, présence à l'autre. La relation accroche, maintien du lien. La séparation, dont on a parlé longuement. Et puis le cadre. Le ring de boxe, le cadre souple, la juste distance, quoi d'autre?
Je voulais peut-être dire une phrase.
L'écoute interne qui traverse tout ça, oui, en permanence.
Prendre bien capacité d'introspection. Prendre conscience de ce qui se passe en soi. Donc,
Moi, je voulais peut-être dire quand même une phrase de Balint, qui est un psychanalyste, je pense qu'il était allemand, qui a dit « La relation d'aide, c'est une rencontre entre une confiance et une conscience ». Et je pense que ça, cette phrase-là, elle peut être vraiment prise de part et d'autre de la relation, par l'intervenant autant que par le bénéficiaire, l'aider, la personne fragilisée. Parce que voilà, c'est-à-dire qu'il y a des capacités cognitives, il y a des capacités affectives, il y a un investissement personnel, il y a un investissement relationnel. Donc c'est du savoir-être et du savoir-faire. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle résume assez bien ce que ma vision aussi de la relation d'aide.
Merci beaucoup, Laura. Merci les chroniqueurs. Vous avez encore une question ?
Moi, une toute juste dernière, mais c'est une question pour les auditeurs. Si jamais il y a certains auditeurs qui veulent faire la formation, où est-ce qu'ils peuvent, qui peuvent contacter ? Où est-ce qu'ils peuvent
la faire ? C'est le moment. Donc, ils peuvent contacter l'Université de Mons, Sciences de la Famille. Hein. Donc, ils tapent sur Internet Formation Père Aidance, Université de Mons. Ils trouvent toutes les informations utile, donc voilà, c'est tout simple, il faut se présenter, voilà, peut-être il y a des documents à apporter, comme par exemple un CV expérientiel, donc mais ça, il faut voir un peu si ça a changé depuis 2 ans, mais en tout cas voilà. Donc,
les informations sont disponibles sur le site de Sciences de la Famille de l'UMONS.
Bah voilà, c'est le plus simple.
Ok. Alors, avant de se quitter, donc la rubrique « Lu, vu, entendu » qui est présentée aujourd'hui donc par Chantal.
Notre soleil.
Oui, lu, vu et entendu, effectivement. Lu parce que c'est un texte, vu et entendu parce que à la lecture de ce texte, nos sens sont mis à l'épreuve tant la réalité décrite est immensément douloureuse. Je m'explique. J'ai lu un texte de Dan de Lyon, un auteur français qui vit avec la schizophrénie. Dan de Lyon a survécu à plusieurs crises psychotiques. Il sait donc de quoi il parle et il va en parler bien. Dans un style direct avec cette volonté d'être accessible à tous. C'est fort, c'est terrible, c'est passionnant. Pour faire simple, dit-il, la crise psychotique, c'est un moment où la réalité tout entière explose, nous laissant sans armure, sans structure, extrêmement vulnérables, en proie à des douleurs et des angoisses incommensurables. Il est donc nécessaire pour ce type de faire extrêmement attention à ce que vous dites. Il parle à la personne qui accompagne. Objectif, conserver la confiance de la personne en crise. Que faire pour gérer au mieux une crise psychotique? Le but du jeu va consister à créer un contact avec la personne, mais ne forcez pas ce contact, nous dit Dan de Lyon. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut, qu'on doit faire ou au contraire éviter de faire. Pour ne prendre que 2 exemples. C'est important d'appeler toujours à la lucidité de l'autre, soit de la personne en crise. Quant aux mutilations, 3 petits points. D'abord, appeler à la raison avant de tout de suite vouloir immobiliser. Après, si effectivement j'en arrive, je suis à m'arracher le visage ou les chairs, alors oui, m'immobiliser. Dans De Lyon, dont ce texte parle pour lui, c'est son plan de crise. Il n'est pas universel, mais peut servir à d'autres, bien sûr. Le texte de Dan de Lyon est intéressant, excessivement riche d'informations. Il est à partager sans modération. Vous le trouverez sur www.medium.com en tapant « Comment gérer une crise psychotique ».
Merci Chantal et nous voilà donc arrivés au terme de notre émission Psylance Radio. Voilà, avec nos chroniqueurs.
Et n'oubliez pas qu'il y a une rediffusion le 2e vendredi du mois, c'est-à-dire dans 3 semaines.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Merci beaucoup, Laura.
Merci,
c'était super intéressant. Donc, et voilà, donc rendez-vous aussi le mois prochain, 3e lundi du mois, avec un sujet mystère encore. Et une bonne soirée à tous.
Et bonne écoute sur le 105.4, ça continue.
Après.